Chapitre 5. Le lendemain, Manuel Vincent met une préface à sa nouvelle existence en réglant ses affaires, en payant ses menues dettes et en cherchant une installation plus commode pour son futur métier. Il laissa ses économies à la garde de Constant Loison, ainsi que les meubles de sa chambre, et chargea son compagnon de trouver un nouveau locataire qui partagea avec lui le loyer. Puis il remplit d'habits et de linge une petite malle qu'il mit à la poste et partit, avec quelques écus dans son gousset, pour chercher un domicile plus rapproché de la frontière. Il le trouva dans une maison de chétive apparence qui dominait les premiers bassins de la rivière et d'où l'on pouvait gagner les gorges de Châtelot en 3/4 d'heure. La chambre qu'on lui offrit était petite, pauvrement meublée, mais assez propre et claire. Il s'y installa, après avoir pris dans une auberge voisine quelques renseignements sur ses bourgeois. Ayant mis ses hardes dans une armoire, c'était tout son emménagement, il s'assit devant la fenêtre, sur sa malle, et considéra la situation. Libre, il l'était maintenant. La chaîne qu'il brisait ne lui laissait aucune marque, ni regret du passé, ni appréhension pour l'avenir, pas de dette, pas de parenté, ni de liaison à rompre. Aucun engagement, aucun devoir. Nul n'avait plus le droit de lui dire « Viens ici, fais cela ». Il était à lui-même sa règle, son propre chef, son seul maître et seigneur. Il songea que le sifflet exécré de la fabrique ne lui déchirerait plus les oreilles et il s'en réjouit comme un écolier à la veille des vacances. Un oiseau passa devant la fenêtre. Manuel le suivit des yeux avec un soupir de délivrance. Il n'aurait plus dorénavant à envier la liberté de ses ailes qui volent suivant leurs désirs dans un espace sans limite. Il pourrait errer tout le long du jour sans autre guide que son bon plaisir. Il ne remonterait plus sa montre dont les aiguilles se traînaient si languissamment pendant les heures de fabrique et semblaient galoper le reste du temps. Ah, comme il narguerait leurs caprices maintenant que le jour entier était à lui! Pressé d'inaugurer cette vie nouvelle, il se leva. Où irait-il? Chez la mère Salomé, pour arranger sans retard une seconde expédition. Le jour était gris, assez morne, l'orage avait laissé derrière lui de longues nues maussades. Dans ces gorges, que le soleil ne visite qu'en passant, l'air devient presque froid quand la pluie menace. Du milieu de juillet, on pourrait se croire subitement transporté à l'arrière-automne. Cependant, Pierre avait voulu sortir. Sa sœur l'avait établi près de la porte, dans un recoin abrité où il put jouir du moindre rayon s'il se faisait une éclaircie. Une longue capote de contrebandier, faite de gros drap bleu, l'enveloppait jusqu'aux pieds. Ses mains frêles disparaissaient dans les larges manches. Sa figure était plus pâle qu'à l'ordinaire. Le soleil seul pouvait y faire monter une teinte rosée. Jonquille était assise à côté de son frère sur un tabouret bas. Elle épluchait des légumes avec nonchalance, s'interrompait à chaque minute pour appeler autour d'elle les poules et les canards et les faire courir après une pitance imaginaire qu'elle faisait semblant de leur lancer. L'agent volatile s'en allait désappointé avec des gloussements et des coin-coins qui protestaient contre un tel outrage, mais au premier appel, elle revenait à toutes pattes, pleine d'un nouvel espoir. Jonquille, les deux mains jointes autour de son genou, riait de les voir se bousculer et ouvrir le bec tout grand pour mieux recevoir la manne attendue. Les canards arrivaient toujours les derniers, en balançant leur large ventre comme des mandarins pressés. Les poules alertes, aux jambées, jacassaient à qui mieux mieux, en furetant à droite et à gauche, puis elles proclamaient avec indignation la duperie dont elles étaient victimes, sur quoi les canards battaient en retraite d'un air offensé. « Comme tu les tourmentes !» dit Pierre qui riait. « Ah, il est bien juste qu'ils aient aussi leurs épreuves, sans quoi chacun voudrait être canard. Je suis tourmenté, moi !» Pierre la regarda avec inquiétude. « De quoi donc, sœur ?»« De nos gars, pardine. Est-ce qu'ils sont arrivés à bon port l'autre nuit ?» Ils auraient pu m'envoyer un mot déjà hier. Ils savent pourtant que je me tracasse à leur sujet. Vraiment, tu n'as pas l'air d'y penser à l'ordinaire. C'est qu'ils avaient le nouveau avec eux. Ici, Jonquille se détourna brusquement, tandis qu'une teinte vermeille courait tout à coup sous sa peau brune. Elle épluchait une laitue avec impatience, jetant pêle-mêle les feuilles fraîches et les feuilles flétries dans son panier, puis elle reprit, mais sans regarder Pierre. « Tu comprends qu'avec un nouveau, le danger est plus grand pour tous. Il est maladroit peut-être. Cependant, non, je ne le crois pas maladroit. Trop hardi plutôt. Il veut faire des prouesses. On s'y casse le cou, ça s'est vu. J'ai déjà regretté 50 fois de leur avoir indiqué ce couloir. Il est par trop mauvais, je leur défendrai de le reprendre. Mais nos gars sont entêtés comme des mules et n'ont pas plus de conscience que sur la main. Est-ce qu'on mène nos vices dans de tels chemins? J'ai bien recommandé à Firmin Mitou d'avoir l'œil sur lui, mais il aura oublié, il ne pense qu'à sa pipe. » Jonquille, tout agité, avait laissé tomber couteau et laitue. Son tablier s'était détaché et les débris de légumes qu'il contenait avaient roulé à terre, formant un petit tas dans lequel poules et canards fourrageaient à l'envi. « Pourtant, reprit la jeune fille, comme si ce monologue soulageait son inquiétude, je me dis que les mauvaises nouvelles voyagent plus vite que les bonnes. S'il était arrivé malheur à l'un des gars, je le saurais déjà. Qu'en penses-tu, Pierre ? » Pierre répondit d'un air distrait. Évidemment, le sort des contrebandiers le préoccupait moins que l'état d'esprit de sa sœur. Il la regardait d'un air absorbé. Tout à coup, sans indiquer la transition par laquelle sa pensée avait sauté d'un fait à l'autre, il dit lentement « La nuit passée, j'ai rêvé que tu te mariais, Jonquille. » Elle tressaillit. « Avec qui ? » fit-elle vivement. « Cela, je ne le sais pas. Je ne voyais pas ses figures. Il était grand et il me paraissait que tu l'aimais bien. » Jonquille haussa les épaules. « Songe, mensonge ! Qu'est-ce qu'il me disait dans ton rêve, Pierre ? » ?»« Il te disait, ma femme, et il t'embrassait, bien sûr. » »« Plusieurs fois ? » ?»« Non, une seule. » »« Quelle bêtise ! Et je le laissais faire ?» C'est alors que mon rêve a commencé à s'embrouiller. La chambre s'est changée en bateau et j'étais à côté de toi. Tu me cachais sous ton grand voile blanc. Lui était toujours là, te serrant la main. Il disait... « Quel joli voyage de noces, Madame Jonquille !» Mais quand je regardais de nouveau, il n'y avait plus à sa place que Monsieur le curé. « Pour bénir le mariage, assurément, » dit Jonquille. « Ton rêve a bien de l'esprit comme toi, Pierre. Les miens n'ont ni queue ni tête. Mais dis-moi, n'as-tu pas vu un tout petit coin de sa figure ?»« Non, il était comme dans un brouillard et je n'avais pas l'idée de m'en étonner. » « Cela prouve, » dit Jonquille en embrassant son frère avec une véhémence dont il s'étonna, « cela prouve que mon mari est encore dans les brouillards de la Sagne, comme ils disent là-haut, et j'en suis bien aise, foi de Jonquille. Je n'ai pas grande envie de rester fille, pourtant. Mais sais-tu, Pierre, que par moments j'ai peur de ce futur mari ? C'est que, poursuivit-elle en relevant d'un air résolu sa petite tête fière, « Je ne veux pas d'un homme qui fasse mes volontés du matin au soir comme un domestique. Mon mari sera mon maître. » Comme elle disait cela, elle leva les yeux vers le chemin, mais les abaissa aussitôt et reprit sa besogne avec vivacité. « Qui est cet homme ? » demanda Pierre. « Regarde, Jonquille, il descend le sentier. » « C'est le nouveau ?» « C'est le nouveau, Manuel Vincent, » répondit-elle sans tourner la tête. Manuel arrivait à la barrière du jardin. « Est-il permis d'entrer ? » demanda-t-il en soulevant son chapeau d'un air un peu gauche. « C'est déjà vous ? » fit Jonquille peu engageante. « Entrez si vous voulez. » Il souleva le loquet et avança lentement. La vue de Pierre le déconcertait. Le premier sentiment qu'un être souffrant ou infirme éveille chez un homme fort est une gêne pénible, une sorte de fausse honte qui le pousse à s'en aller au plus vite. Les bons, les compatissants surmontent ce malaise et restent. C'est ce que fit Manuel. Après avoir dit quelques mots à Jonquille, il se pencha vers Pierre et prit sa petite main froide entre les deux siennes, chaudes et robustes. « C'est votre frère. Il est bien palot. Est-ce qu'un petit bout de promenade au soleil l'amuserait ?»« Ah, je crois bien, » répondit Jonquille en voyant son frère devenir tout rouge de plaisir anticipé. Moi, je ne suis pas assez forte pour le porter. Tout ce que je puis faire est de l'amener jusqu'ici. » Est-ce que je saurais m'y prendre sans lui faire de mal ? Poursuivit Manuel en tournant son chapeau entre ses mains. Un reste de gêne l'empêchait de s'adresser directement à Pierre. L'attente joyeuse qui avait coloré le visage de l'enfant fit place à un air profondément désappointé. « Vous sauriez très bien, murmura-t-il, mais si cela vous ennuie, ça ne fait rien, je n'y tiens pas beaucoup. »« Essayez, dit Jonquille, il n'est pas lourd, mon pauvre frère. » Manuel se pencha vers lui et Pierre se sentit soulevé comme une plume, sans précipitation, sans secousse, sans que le moindre choc fît pâtir son pauvre dos endolori. Un des bras de Manuel, enveloppé dans les plis de la capote, le soutenait comme un coussin. L'autre lui faisait un dossier et sa tête s'appuyait contre la robuste épaule de son porteur. « Comme je suis bien » murmura-t-il presque involontairement. Jonquille sourit à Manuel d'un de ces sourires rares, doux, qui glissaient parfois sur ses lèvres et s'éteignaient promptement, comme une étoile filante, donnant à sa physionomie une suavité étrange et passagère. Manuel eut fait des choses bien difficiles pour mériter de nouveau ce salaire. Mais pas plus qu'on arrête l'éclair au passage, on arrêtait ce sourire sur la bouche de Jonquille. « Où irons-nous ? » demanda Pierre à demi-voix, impatient de commencer cette promenade qui était pour lui un grand événement. Pendant qu'il parlait, les nuages gris s'écartèrent, comme honteux de faire ombre sur son plaisir. Un rayon brillant s'élança comme une flèche et se mit à danser sur la rivière. « Voilà le soleil, dit Pierre, c'est mon ami. Allons à la grotte, l'eau est belle là-dessous. Je vous indiquerai le chemin. » « Moi, j'ai encore à laver mes laitues, » fit Jonquille en lançant un énergique coup de pied au milieu des innocents légumes. « Sans cela, j'irai avec vous. Quand je serai maîtresse d'arranger le monde à ma guise, les hommes feront le dîner. » Manuel, sur les indications de Pierre, s'engagea dans un petit sentier qui s'écartait du chemin principal et suivait le cours de l'eau. Il s'arrêta bientôt, car la rivière semblait lui barrer le passage en faisant un coup de subit. « Baissez-vous un peu, dit Pierre, et prenez à droite. » La berge, formée d'une roche calcaire, tombe à pic dans le lit du Doubs et semble, d'en haut, une muraille parfaitement lisse. Mais le lent travail de la rivière l'a creusée par-dessous, évidant à cet endroit une voûte basse et longue, une sorte de grotte que le flot envahit au printemps, mais qu'il laisse à sec durant l'été. Le sol est pavé de galets blancs et bleus, polis comme des agates. Deux ou trois gros blocs échoués peuvent servir de siège. Manuel s'aventura avec précaution dans le passage étroit, resserré entre l'eau et le rocher qui conduit à la voûte. Quand il se fut assis, l'étrangeté du spectacle le rendit muet un moment. Du reste, il eût été difficile d'échanger des impressions, car le fracas des eaux aurait couvert la voie. Cette grotte se trouve en face de l'écluse. Comme la voûte en est basse, elle circonscrit le tableau, ne laissant voir que les eaux furieuses et une mince bordure verte au-dessus. Sur cette scène étroite, la rivière est la seule actrice. Elle s'y complaît. Avec une pétulance et une coquetterie sauvage, elle déploie tous ses effets, elle étonne, charme, effraie, éblouit, elle lance tous ses flots par-dessus l'écluse, comme des chevaux emportés dont la crinière blanche d'écume se soulève et flotte au soleil, puis elle danse en remous capricieux qui vont s'apaisant. À un jet de pierre de l'écluse, toute cette fougueuse colère s'est calmée. Le mugissement des eaux est devenu un murmure qui chuchote en passant sous les branches, là où l'écumeuse se change en petites vagues qui rient comme des fossettes sur la face étincelante de la rivière. Et l'œil se plaît à ces contrastes. Il remonte sans cesse dans la nappe paisible où l'écume flotte au hasard jusqu'au bouillonnement rageur qui semble vouloir tout emporter et qui a déjà su arracher bien des pierres au barrage contre lequel il s'irrite depuis si longtemps. Changeant comme l'onde, il y a tantôt 2000 ans qu'on a dit ce mot. L'eau se précipite avec une fureur méchante et stupide, belle toujours dans ses élans de colère, mais cruelle, inexorable, elle emporte sans pitié une branche d'arbre, une barque renversée, et les brise contre les rochers, puis elle s'apaise, sourit, et vient caresser les pieds d'un enfant. L'eau, c'est la grande capricieuse, la grande coquette, qu'on aime en la redoutant. Elle soumet à son charme les imaginations les plus froides, fascine les gens les plus blasés. Les montagnes, les forêts, les prairies sont belles, l'eau est plus belle encore, elle est mobile et vivante. Instinctivement, tous les peuples lui ont prêté une âme, des haines et des amours. Manuel et Pierre restèrent longtemps silencieux. Ils ne voyaient pas le ciel, mais les plaques de lumière qui miroitaient sur l'eau montraient bien que les nuages s'étaient dissipés. Enfin, Manuel se leva. Il craignait, pour l'enfant qui lui était confié, la fraîcheur trop humide de la grotte. « Que c'était beau! Je vous remercie bien, dit Pierre. Mais n'êtes-vous pas fatigué ?»« Fatigué? Tu n'es pas plus lourd que mon sac de l'autre nuit. Je vais reprendre le sentier et chercher une place où nous pourrons nous asseoir au grand soleil. Je t'ai senti frissonner tout à l'heure. » Bientôt, il s'arrêta dans un endroit découvert, mais abrité à gauche par des buissons, à droite par un grand rocher gris. L'ardeur du jour s'y réfractait, l'herbe y était sèche et brûlée. Pierre regardait autour de lui avec cette attention grave et concentrée qu'acquièrent ceux dont la vie a été longtemps resserrée dans un étroit espace. Il était rare qu'il vît de près les fleurs, les cailloux et les buissons. Aussi buvait-il des yeux jusqu'aux moindres détails de forme et de couleur. Deux petits papillons blancs passèrent auprès de lui en se donnant la chasse. Il les suivit du regard aussi longtemps qu'il put, regrettant de les voir disparaître si vite. Un lézard traversa la route comme un trait, grimpa le long du rocher et chercha un refuge dans une fente. « Arrêtons-nous, s'il vous plaît !» s'écria Pierre. « Peut-être qu'il se remontrera !» Au bout d'une minute, en effet, le craintif animal mit sa tête à la fenêtre et la retira aussitôt. Mais Pierre, qui était tout près, retenant son souffle, avait eu le temps d'apercevoir ses yeux brillants et le vif reflet d'émeraude dont les contes de fées font une couronne au prince lézard. L'enfant, dont la longue maladie avait un peu éteint la vivacité naturelle, ne montrait pas son ravissement par de grandes exclamations. Il se contentait de sourire et faisait provision d'images pour les longues semaines monotones qui suivraient cette heureuse promenade. Manuel l'installa au bord du chemin, dans une sorte de niche ensoleillée, garnie de longues herbes pendantes, puis il s'assit à côté de lui. « Te voilà aussi comme un lézard en plein soleil, » dit-il. « Mais n'auras-tu pas trop chaud ?» En même temps, il souleva son chapeau pour essuyer quelques gouttes de sueur, car il avait gravi le sentier au pas de course pour sortir plus vite de l'ombre. « Je n'ai jamais trop chaud, » répondit Pierre. « Jonquille dit que j'ai du sang de rave dans les veines. » « On le croirait facilement à voir tes joues. À quoi le médecin est-il bon s'il ne te guérit pas ? » fit-il brusquement. « Je suppose qu'il n'y peut rien, » dit Pierre, étonné de voir une sorte d'irritation briller dans les yeux du jeune homme. « N'y peut rien, n'y peut rien, je le forcerai bien, moi, à pouvoir quelque chose. Ça a-t-il un grain de bon sens ou de cœur de laisser un enfant végéter comme ça, après avoir étudié pendant des années la manière de guérir les gens ? Il y a longtemps que tu es malade ?»« Je crois que je l'ai toujours été, » murmura le jeune garçon. « Et quel âge as-tu ? 15 ans. Voilà des choses qui me passent, » murmura Manuel. Il se leva en mâchonnant sa moustache et fit quelques pas dans le sentier. Puis il revint. « La patience, » dit-il en appuyant son menton sur sa main, « la patience, c'est le courage le plus difficile, n'est-ce pas ?»« Je n'en sais rien, » dit Pierre, « je n'ai pas autant de patience qu'il faudrait. Mais on s'accoutume à tout, même à souffrir. » Manuel secoua la tête d'un air de doute. « Moi, pour souffrir longtemps, je serais un lâche, » dit-il. « Serrer les dents pendant qu'on me torturerait, et même mourir sans crier, je le pourrais. Mais languir, non. » Pierre essaya de détourner l'entretien. Il ne s'apitoyait jamais sur lui-même et sa fierté instinctive redoutait la compassion des autres. Une femme lui devinait dès l'abord. Manuel, avec sa bonté brusque, ne s'en doutait pas. « Je ne m'ennuie jamais, » dit Pierre en s'efforçant de parler gaiement. « Souvent je travaille et puis je lis, j'ai beaucoup de livres. » C'est Jonquille qui te les a donnés ? Elle m'a acheté les plus beaux, mais j'en ai de très vieux, tout jaunes. Si vous montez dans ma chambre, vous verrez mon étagère. J'ai plusieurs Jules Verne pleins de gravures. Ceux-là ont coûté bien cher à Jonquille, car ils sont tout dorés, en dehors et sur la tranche. J'ai aussi Paul et Virginie et les Fables de La Fontaine. Ma mère a acheté une fois une vieille commode pleine de livres délabrés. J'ai raccommodé les plus malades. Il y avait là une Vie des Saints, une Grammaire de Noël et Chapsal, une Imitation de Jésus-Christ et d'autres où j'ai appris beaucoup de choses. Jonquille dit que si je me guérissais, je ferais un bon régent. Mais j'aimerais mieux devenir un voyageur, poursuivit-il à demi-voix. La nuit, quand je ne dors pas, je m'amuse à me raconter toutes les aventures que j'aurai dans les pays sauvages. C'est drôle, dit Manuel, moi aussi je soupire après les aventures. Sur ce chapitre-là, nous nous rencontrons. Il y en a encore un autre où nous serions du même avis, dit Pierre en fixant sur son grand ami des yeux profonds et scrutateurs. Possible, lequel ? Est-ce que vous n'aimez pas Jonquille ? Dit-il simplement. Sa vie solitaire, tout en développant chez lui une grande finesse d'observation, l'avait laissé fort ignorant des conventions usuelles et des réticences dont on enveloppe certains sujets. Il savait que tous les gars, habitués de leur maison, étaient des prétendants de sa sœur. Jonquille n'en faisait pas mystère, lui-même, avec sa naïveté sérieuse et réfléchie, trouvait cela fort naturel et ne doutait pas que Jonquille ne comptât en Manuel un amoureux de plus. Le jeune homme restait silencieux, les yeux fixés droit devant lui, tirant furieusement sa moustache pour s'encourager à résoudre quelque difficile problème. « J'aime sa voix, » dit-il enfin, « je la suivrai n'importe où. Mais elle, Jonquille, non, je ne crois pas que je l'aime. »« Et pourquoi ?» fit Pierre indigné. « N'est-elle pas jolie et bonne et courageuse ?» « Oui, » répondit Manuel, qui semblait près de couler à fond dans son problème, comme dans un puits insondable. « Elle est jolie et bonne et courageuse, mais ce n'est pas une femme, c'est un garçon. » Pierre baissa la tête. Des larmes qu'il refoulait énergiquement remplirent ses yeux. Ce que Manuel exprimait là sans embâge, il avait pensé une fois, deux fois peut-être, mais il avait repoussé aussitôt cette idée encore vague qui n'avait pas eu le temps de se formuler. Blâmer Jonquille, lui qui vivait de sa tendresse. « Allons-nous-en, s'il vous plaît, » dit-il en détournant la tête. Il serait volontiers demeuré là, au grand soleil, à écouter les grillons et à voir bourdonner les mouches pendant des heures entières. Mais c'eût été, croyait-il, trahir sa sœur que de rester plus longtemps avec l'homme qu'il a critiqué si librement. Manuel se pencha vers lui pour le soulever dans ses bras. Comme il arrangeait les plis de la capote, il vit que Pierre était tout pâle, que ses lèvres tremblaient. « Ah, mon pauvre garçon, je t'ai fait mal !» s'écria-t-il. « Que je suis donc maladroit !»« Ne me parlez plus jamais de ma sœur !» dit Pierre d'une voix frémissante. « Ce que vous pensez d'elle, gardez-le pour vous. Mais vous vous trompez, vous ne la connaissez pas. Vous ne savez pas comme elle est douce et tendre, comme elle est à droite de ses mains quand elle veut. Est-ce donc sa faute si elle doit ramer la barque, faire le guet la nuit, gronder les gars quand ils lui désobéissent ? Elle a été élevée au milieu de tout ça. Chez nous, du matin au soir, on jure, on fume, on chante et on se bat. » « Jonquille n'est pas une demoiselle et vous n'avez pas le droit de la juger. » Pierre était tout à fait sorti de sa tranquille réserve, ses yeux brillaient comme des flammes au milieu de sa figure pâle. Manuel le sentait trembler de la tête aux pieds. Il s'arrêta et le regarda avec une vraie tendresse. « C'est bien ça, mon garçon, dit-il, défends ta sœur. Moi, si j'en avais une, je ferais de même, avec les poings toutefois, parce qu'il fonctionne mieux que la langue. Au bout d'une minute, il reprit « J'ai eu tort, je suis un brutal. Là, es-tu content, Pierre ?» Sa voix trahissait une vraie anxiété. Pierre glissa sa main dans celle du jeune homme, mais sans rien lui dire. Le coup l'avait blessé au point le plus sensible et il devait en souffrir longtemps encore. Quand il vit de loin Jonquille monter le sentier à leur rencontre, il suivit tous ses mouvements avec une attention dont l'intensité était presque pénible. Il aurait voulu qu'elle-même, dans chaque geste, chaque mot, donnât tort à celui qui se permettait de la blâmer. Ah, pourquoi cachait-elle sous la brusquerie de ses caprices ces douces façons féminines que Pierre lui connaissait bien ? Est-on fatigué ? Un peu, je m'en doute, dit-elle en caressant la joue de son frère. Vous êtes resté trop longtemps là-haut. Pour cette fois, je vous pardonne, mais ne recommencez pas. Le dîner est prêt, Manuel. Elle prononça ce nom sans y songer. Elle avait coutume d'appeler tous les gars par leur prénom. Mais voyant le jeune homme faire un léger mouvement de surprise, elle rougit subitement et une teinte cramoisie couvrit en une seconde ses joues, ses tempes et son cou. « Eh bien quoi ? » fit-elle irritée. « N'êtes-vous pas baptisé Manuel ? Le nom est assez laid, j'en conviens, mais enfin c'est le vôtre. Vous ne vous attendez pas à ce que je vous appelle Monseigneur sans doute. » Là-dessus, elle tourna sur ses talons et entra la première dans la salle basse où le couvert était mis pour quatre. La mère Salomé montra à son hôte une mine assez gracieuse. Avant qu'il s'assît, elle l'informa obligeamment que son dîner lui coûterait 30 sous afin qu'il ne s'imaginât pas qu'il allait manger gratuitement le dîner de la veuve et des orphelins. C'était sous ce titre qu'elle désignait en général sa personne et sa famille, donnant à entendre par là qu'elle avait de lourdes charges et tout juste de quoi joindre les deux bouts. « J'espérais trouver ici 2 ou 3 camarades, » dit Manuel. « Nous aurions combiné un coup pour la nuit prochaine. » « Firmin Mitou viendra sûrement dans l'après-midi. Il est rare qu'on passe 2 jours sans le voir, » dit l'aubergiste. « Par ça, jeune homme, vous êtes tout à fait des nôtres. Vous avez raison. Fameux métier, des risques, mais pas trop de concurrence et gros à gagner. Mais vous n'êtes pas équipé. Il vous faut des guêtres, des crampons pour quand la terre sera gelée, un sac de bonne toile, des courroies et puis un pistolet. C'est l'essentiel. » « Vous pourriez me fournir ça, peut-être, » dit Manuel. La mère Salomé ne s'était pas attendue à le voir entrer si facilement dans l'arrangement qu'elle allait lui proposer. « J'ai là une défroque complète, solide butin, comme neuf. Quelques boutons manquent aux guêtres, mais ça se recoud. Le pistolet est une belle pièce. Vous vous connaissez en armes à feu ?» « Je sais démonter un fusil tout comme un autre, puisque j'ai fait mon école militaire. Mais ça ne veut pas dire que je sois grand connaisseur. J'ai donné 20 francs pour le pistolet et 3 de plus pour la corne à poudre et les balles. Je vous céderai le tout au même prix, parce que c'est pour vous. Il faut favoriser les jeunes gens qui s'établissent. » Jonquille posa sa fourchette d'un air déterminé. « Tu fais erreur, mère. Je t'ai vu moi-même payer 10 francs pour cette breloque. Si tu veux faire un bénéfice, dis-le tout droit, au lieu d'en berlificoter ma... Monsieur Manuel !» Elle prononça ce « monsieur » avec emphase. Manuel rougit. « Qu'est-ce que c'est que ces manières ?» fit l'aubergiste en prenant ce biais pour détourner l'attention de Manuel des indiscrètes révélations de sa fille. « Est-ce que tu vas lui donner du « monsieur » à présent ?» « Je me suis trompée. Je voulais dire « Monseigneur ».» Manuel rougit davantage et parut sur le point de se fâcher. Mais cette petite vengeance suffisait à Jonquille. Son courroux s'apaisa, elle se mit à rire et dit à sa mère « Ne nous fais pas de si gros yeux. C'est une petite affaire entre moi et lui que je viens de régler. Tu régleras la tienne après. Mais il me semble que le pistolet est assez cher à 15 francs. » La mère Salomé leva les mains avec indignation. « C'est une vieille carcasse à un coup, » poursuivit Jonquille. « Le canon est rouillé, la détente est lâche, il faudra au moins 3 jours pour le remettre en état. Monseigneur Vincent, je vous conseille de marchander, ne lâchez pas plus de 3 plaques en tout cas. Si vous m'appelez encore monseigneur, je m'en vais, fit Manuel qui n'était pas particulièrement endurant. Comment voulez-vous donc qu'on dise ?
Manuel tout court.
C'est bon, je vous appellerai Manuel tout court. Mais pour un drôle de nom, c'est un drôle de nom. Voulez-vous de la salade, Manuel tout court ?
Il se leva avec un geste irrité.
« Oh, jonquille !» s'écria Pierre. « Comment peux-tu le tourmenter ainsi ?»« Rasseyez-vous » fit-elle d'un ton impérieux. « Est-ce qu'on plante si vite la compagnie ? Voilà de jolies manières. Soyez tranquille, j'ai fini de rire à présent. »
Le dîner s'acheva en silence, puis la mère Salomé sortit pour quérir au grenier l'équipement qu'elle voulait offrir à Manuel.
À peine la porte fut-elle fermée, « Faisons la paix !» s'écria Jonquille en se tournant vers Manuel. « Il fallait dire que vous n'aimiez pas à être taquiné. Je ne le ferai plus, je vous le promets, jusqu'à la prochaine fois. » Elle lui tendit la main. « Ôtez de votre figure cette vilaine fronce, dit-elle. Je vous pardonne. »«
Eh bien, dit Manuel subitement, je fais la paix, mais il y a une condition. »«
Laquelle ?» Répondez à ceci. Constant Loison prétend que vous serez à lui. Moi, je n'en crois rien.
Jonquille fronça le sourcil.
Croyez-le ou non, ça m'est bien égal, fit-elle l'air hautain.
Ça ne m'est pas égal à moi, dit Manuel.
Non ? Et pourquoi ?
Femme qui questionne commence à s'apaiser.
Parce que, répondit le jeune homme sans hésitation, je vous souhaiterais un autre mari.
Jonquille haussa les épaules.
Grand merci, dit-elle. Puis elle sourit. Si vous n'aviez pas été bon pour Pierre, je vous taquinerais encore un peu, ça forme le caractère des jeunes gens. Mais je vous dirai que Constant Loison en a menti. Faites-le lui savoir. Du reste, je me charge de le lui dire moi-même à la première occasion. Ici, la mère Salomé rentra, jetant sur la table sa charge de friperie. « Choisissez là-dedans, dit-elle, tandis que ses mains crochues tournaient et retournaient chaque pièce d'habillement, tâtant les coutures, sondant les poches, car on trouve parfois de l'argent caché dans les doublures des vieux habits. Voici les guêtres, bon drap, deux rangées de boutons. Vous n'avez pas besoin de blouse, par hasard ? J'en ai là une demi-douzaine qui était à mon mari, tout battant neuve. Je cousais la dernière quand il a décampé pour l'autre monde. S'il était parti 15 jours plus tôt, je n'aurais pas acheté la toile. Autant de perdu. J'ai aussi là-haut un joli coffre à serrure pour mettre vos affaires dedans, ça vous conviendrait. Un tour de clé et votre bourgeoise n'y pourrait fourrer les doigts. Et des gilets de flanelle, en avez-vous ? On ne peut pas être contrebandier sans ça. La flanelle chasse les rhumatismes, c'est connu, autrement vous êtes perclus avant 30 ans. Allons, faites votre choix. »
Manuel examinait le pistolet couvert de rouille et démantibulé, qui ressemblait plutôt à une ustensile de cuisine hors usage qu'à une arme de guerre.
« Ça, 20 francs, dit-il en essayant de faire jouer la détente qui résistait et se grippait. Ça en vaut 10.
« 8, tout au plus !» interrompit Jonquille, décidé à combattre pour la justice et le droit, bien qu'elle fût rouge de honte et que sa mère lui jeta des regards furieux.
« Quant aux blouses ?»«
Quel bazar !» dit une voix joviale, tandis que la porte s'ouvrait toute grande.
« Ah, mère Salomé, vous essayez aussi d'enfiler ces vieilles blouses à Manuel ?»«
Connu le truc, vous les avez offertes à tous les gars qui ont passé chez vous depuis l'an 1 de la République. » Vous oubliez que votre défunt homme, paix à son âme, était un très petit homme, comme dit la chanson. Et Firmin Mitou se mit à fredonner.
Le chat l'a pris pour une souris. Au chat, c'est mon mari. Mon Dieu, quel homme, qu'il est petit.
Jonquille semblait soulagée. Elle retourna s'asseoir à côté de Pierre. La vieille brocanteuse avait affaire maintenant à forte partie. Après bien des pourparlers, Manuel choisit les articles nécessaires à son équipement et Firmin, qui marchandait avec ardeur, obtint finalement une réduction de moitié sur le prix que l'aubergiste avait d'abord déclaré le juste prix. Firmin Mitou, à qui son nouveau collègue avait inspiré une sincère estime en le secouant avec tant d'énergie quand il avait pris pour un douanier, Firmin Mitou daigna entrer, après quelques cérémonies, dans le plan que Manuel lui proposa. Pour en discuter les détails en tête à tête, ils prirent le bateau et remontèrent le cours de la rivière jusqu'à une petite distance de la maison. Car il faisait trop chaud pour rester dans la salle, et qui sait si le long du chemin, les buissons n'auraient pas d'oreilles. Arrivés à un endroit où la rivière s'étale sur un fond large et sablonneux, tout parsemé d'énormes pierres, ils amarrèrent leur barque entre deux blocs et s'étendirent sur les bancs, fumant leurs pipes sans mot dire, comme des Indiens en conseil de guerre. Au bout d'un grand moment, Firmin se souleva nonchalamment sur son coude. « Nous aurons du grabuge ce soir, » dit-il en montrant du bout de sa pipe une flotte de gros nuages livides qui voguaient lentement dans le ciel au-dessus de la rivière. « À cette saison, nous avons de fréquents orages. Le courant les attire. Fameux temps pour nous, mon collègue !»« Oui, » fit Manuel avec indifférence. « Parbleu, quand le ciel crache des éclairs à droite et à gauche et qu'il pleut des ficelles, crois-tu que nos chers cousins les gabelous se mettent en campagne ? Allons donc, ils aiment mieux le linge sec que le linge mouillé sur la peau. À moi, ça m'est égal, je suis en caoutchouc. Mais nous n'aurons pas le plaisir de leur tirer notre chapeau ce soir, je t'en réponds. Combien d'expéditions nous faut-il encore pour liquider le soc à Constant ? Demanda Manuel. 4 ou 5, en y mettant toute la bande. Mais nous n'aurons qu'Arsène ce soir avec nous. Les autres sont de noces chez l'oncle Gaillard, qui marie sa fille. Donc, il nous faudrait 15 jours à peu près pour arriver au fond de tas. Oui, mais qu'importe, quand il n'y a plus de besogne, il y en a encore. Constant refera des achats. Chez la mère Salomé, le coin des marchandises ne désemplit pas. Manuel restait songeur. « Est-ce que Constant Loison n'est vraiment jamais allé avec vous, là, jamais ?»« Par ma foi, nous en serions bien engamachés. Ça n'a pas de nerf, ce paroissien-là. Ni jarret, ni poignet, ni rein, ni rien. »« Tiens, ça rime, » fit-il enchanté. « Et ça m'est venu tout seul, ma parole, sans préméditation. Dire que l'autre jour, j'ai voulu faire un quatrain pour un baptême et que je n'ai jamais pu en venir à bout. » Mais Manuel tenait à son idée. Combien gagne-t-il sur sa marchandise ? C'est pas le double de ce qu'il nous donne, j'imagine. Il a ses capitaux dans l'affaire, tu comprends ? Il y eut un nouveau silence. Des bouffées de fumée bleuâtre montaient de la barque que le flot en passant faisait osciller comme un berceau. Les deux compagnons tombèrent dans une demi-somnolence que la lourde chaleur de l'après-midi et le clapotage monotone de l'eau changèrent bientôt en un profond sommeil. De son banc trop étroit, Firmin roula au fond de la barque où il allongea commodément ses grands membres sans même entr'ouvrir les yeux pour se reconnaître. Manuel était étendu sur le dos, rêvant qu'il était à la fabrique. « Oh, ce bruit de machine » murmurait-il en dormant. « J'en deviendrai fou, c'est sûr. » Au bout d'un quart d'heure, il se réveilla. Le soleil le frappait en plein visage. Il se tourna de côté et prêta l'oreille un moment au bruit léger de l'eau que son sommeil avait amplifié au point d'en faire la respiration gémissante d'une machine à vapeur. En cet instant, quelqu'un les héla de la rive. C'était Arsène Leroux, sur lequel Manuel et Firmin comptaient pour l'expédition projetée, un garçon solide, trapu, fort et placide comme un bœuf. Il ne brillait ni par la vivacité d'esprit, ni par une grande éloquence. Firmin Mitou l'appréciait fort, car il lui laissait toute la place dans la conversation. Il ne montrait jamais ni satisfaction, ni déplaisir. Sa remarque la plus fréquente était « Les pierres sont dures ». Cette vérité incontestable lui paraissait s'adapter à toutes les circonstances de la vie. Voyant ses deux associés sur la rivière, il s'assit tranquillement au bord du chemin. « Il fait chaud, hein ?» lui cria Manuel. « Trop chaud pour parler, » répondit-il en secouant la tête. « Nous avons un petit coup d'air frais ici, au milieu du courant, » reprit son interlocuteur. « Je vais vous chercher. » Arsène inclina la tête avec condescendance, tandis que Manuel prenait les rames et approchait du bord. L'autre descendit la berge à sa rencontre, mais son pied se prit dans une racine traînante et il tomba en avant sur les cailloux. « Pas de mal, » fit-il en se relevant aussitôt. Puis il trempa dans l'eau sa main droite, dont la paume était écorchée. « Les pierres sont dures, » dit-il avec flegme. Firmin Mitou s'était réveillé. Les trois compagnons s'assirent côte à côte dans la barque et Arsène fut mis au courant du projet. Du reste, les détails lui importaient peu, il manquait absolument d'initiative, ce n'était pas lui qui eût jamais combiné un plan. Il chargeait sur ses épaules le sac qu'on lui avait rempli et marchait tout droit où on lui disait d'aller. L'argent qu'il gagnait à ce métier, il le donnait à sa mère, bonne femme chargée de famille, qui traitait son fils aîné comme un bambin et lui donnait encore des bourrades. Pour écouter des délibérations, il était inestimable. Les longueurs parlementaires ne l'impatientaient jamais. Il opinait du bonnet, admirant chaque orateur et disant avec modestie « Ce n'est pas moi qui pourrais en dévider aussi long. » « Tu as bien saisi, hein ?» dit Firmin Mitou en le poussant du coude pour conclure. « Suffit, » répondit-il avec nonchalance. « Va devant, on suivra bien. »« Nous ne serons pas à la noce ce soir, le temps se gâte. »« Ça s'est déjà vu. » »« Tu es un brave !» s'écria Firmin en lui frappant sur l'épaule. « Allons faire une partie. » Manuel fut contraint d'avouer qu'il ignorait totalement la noble science du jeu de quilles. Ses compagnons ne perdirent pas de temps pour l'y initier. De partie en partie, l'après-midi s'écoula vite. L'heure du souper arriva, puis il fallut se préparer au départ. Jonquille servait les trois contrebandiers. Plus réservée qu'à l'ordinaire, elle ne disait pas grand-chose. Ils la prièrent en vain de leur chanter une chanson. « Pour trois, cela n'en vaut pas la peine, » répondit-elle sèchement. « De l'eau-de-vie, alors, » s'écria Firmin, « il faut bien qu'on se monte la tête avec quelque chose avant de partir. » Sans répondre, elle prit sur la table trois petits verres à liqueur, les remplit parcimonieusement et remit la bouteille sous clé. « Encore un, » dit Firmin en vidant son verre d'un coup. Elle secoua la tête. « Pas une goutte de plus, êtes-vous fou ? Tenez-vous absolument à vous casser les jambes ? Allons, préparez-vous, il est temps de vous mettre en route. » Manuel était très désappointé. Jonquille craignait-elle de faire trop maigre recette en chantant pour trois auditeurs seulement ? Il avait bonne envie de le lui demander, un sentiment de courtoisie naturelle le retint. Son gousset était bien garni, mais comment dire à Jonquille qu'il jetterait de bon cœur dans son tablier un écu par chanson ? Le départ fut morose, presque lugubre. Le corps d'expédition manquait d'enthousiasme, la campagne s'annonçait mal. « Nous étions plus gais l'autre soir, » dit Firmin en jetant à la jeune fille un regard de reproche. « Les soirs se suivent et ne se ressemblent pas, » répondit-elle avec indifférence. « Croyez-vous donc que je sois toujours en humeur de chanter, comme une boîte à musique ?» Il pleuvait à verse. Jonquille s'enveloppa dans un vieux châle qui avait déjà subi tous les outrages du temps. Elle marcha la première au bateau. Manuel et Firmin la suivaient, puis Arsène, qui ouvrit avec flegme un immense parapluie de coton rouge. « Est-ce que tu vas marcher sous ce toit jusqu'en France ?» demanda Firmin en se retournant. « À quoi bon se faire mouiller ? » répondit-il. « Je laisserai mon parapluie à Jonquille, elle s'achotera dessous en nous attendant. » Il s'assit auprès de la batelière, l'abritant aussi bien que possible sous le vaste dé, et lui jetant des regards timidement épris, auxquels la nuit noire enlevait beaucoup de leur efficacité. L'événement ne donna pas tort à sa prudence. Comme ils abordaient à l'autre rive, l'averse cessa. Arsène put tâter avec satisfaction ses épaules parfaitement sèches, tandis que ses deux compagnons sentaient une froide humidité pénétrer leurs blouses et leurs chemises. Comme il était peu probable que les gabelous fussent en campagne cette nuit-là, on prit un chemin plus aisé que celui avec lequel Manuel Vincent avait déjà fait connaissance. Il montait obliquement dans les rochers et était plutôt long et fatigant que vraiment dangereux. Le gravir était une corvée essoufflante, ennuyeuse, à laquelle manquait complètement la poésie du danger. L'orage grondait toujours, mais dans le lointain. La pluie traînait après lui. Tout au fond du ciel, des lueurs électriques palpitaient continuellement. Le chemin était détrempé, glissant. Il fallait s'arrêter souvent pour secouer la terre qui alourdissait les semelles. Nulle excitation, pas de gradins à escalader comme l'autre nuit, rien à faire qu'à mettre un pied devant l'autre, sans le moindre enthousiasme, avec la pluie sur le dos et une courroie qui meurtrissait les épaules. « Quelle scie !» murmura Manuel en s'arrêtant. « C'est le métier, » répondit Firmin. « Les pierres sont dures, » ajouta Arsène. « Marche !»« Tout ça, c'est la faute à Jonquille, » pensait Manuel avec amertume. « Si elle avait voulu seulement, elle nous aurait mis du feu sous les talons. Est-ce que j'aurais senti la pluie l'autre soir? J'aurais passé sous des jets de pompe sans m'en apercevoir. Mais elle veut faire la renchérie. » Au bout de 2 heures, ils arrivèrent au hameau qu'habitait le petit épicier. Comme leur charge consistait uniquement en sucre et en tabac, ils la laissèrent tout entière chez lui et le prièrent de leur donner asile pour le reste de la nuit. L'épicier était un brave homme sous ses airs matois. De plus, il tenait à se mettre au mieux avec ses fournisseurs contrebandiers, grâce auxquels son commerce florissait. Il alluma un grand feu sur le foyer, autour duquel les 3 hommes se séchèrent, puis le grog circula dans un grand pot brun, où il se tenait chaud. Firmin redevenait bavard, Arsène Leroux acceptait le grog comme la pluie, avec une inaltérable placidité. Manuel seul tardait à se rasséréner. Cette seconde expédition, moins glorieuse que la première, jetait un froid sur ses espérances. Il avait vu d'abord le côté poétique du métier. Il ne savait pas encore que tout bon contrebandier doit être à la fois hardi gymnaste, cœur résolu et bête de somme à l'occasion, pour endurer, comme un cheval qui tourne autour du pressoir, la monotonie abêtissante des corvées. Il dormit peu, bien que le foin de la grange fût sec à souhait et qu'il eût en outre une excellente couverture. Il s'enfiévrait à se demander si, en refusant de chanter, Jonquille avait agi par hostilité personnelle envers lui, par rancune de leur petite escarmouche, ou bien si ce n'était qu'un de ses caprices dont elle avait ample provision. Manuel brûlait d'interroger Firmin à cet égard, mais sa fierté l'en empêcha. Du reste, il se répéta plusieurs fois que les lubies de Jonquille ne lui faisaient ni chaud ni froid, et il finit presque par le croire. Au petit jour, il s'endormit. Quand il se réveilla, Arsène était déjà parti, mais Firmin Mitou, qui possédait la précieuse faculté de pouvoir se passer de sommeil à volonté et de dormir au contraire par provision quand l'occasion s'en présentait, Fabien Mitou était encore dans les bras du rêve. Sa figure épanouie était entourée d'une auréole de brins de paille fichée dans ses cheveux. Le bras droit replié sous la nuque, un foulard de coton à grands carreaux rouges et bleus noué lâchement autour de sa tête, Firmin rêvait peut-être qu'il était roi d'Yvetot. Manuel le réveilla sans tarder. Il était impatient d'arranger une nouvelle expédition pour le soir même. Son compagnon bougonna bien un peu contre cet excès de zèle, mais il finit par consentir et promit de se trouver chez la mère Salomé à l'heure dite. Puis les 2 contrebandiers, vétérans et débutants, se séparèrent et rentrèrent chez eux par le plus court chemin.